semaine, vous aviez une soirée assez ardue, je crois. Et donc ici, je vais essayer de présenter un exposé qui peut-être, par rapport aux deux exposés précédents, fera encore un geste différent. Donc, je pense que Yves s'est vraiment concentré sur une analyse critique d'une actualité. Avec Foucault, on a eu un geste rétrospectif sur une généalogie de la pensée de la gouvernance. Et je vais à partir de là essayer un geste peut-être plus prospectif, critique par rapport aux évolutions possibles des théories contemporaines de la gouvernance. Et si un des termes que Jean-François vient de nous rappeler centraux chez Foucault est celui du savoir-pouvoir, je vais essayer de mettre en scène deux autres termes qui sont ceux de pouvoir-faire et de faire-pouvoir. La réflexion que je vais mener, je voudrais l'articuler en quatre étapes, faire une sorte de raisonnement en quatre étapes avec vous. Alors, j'appuie sur quoi sur ça. Voilà. Donc, voilà, une première partie d'une hypothèse avec vous, c'est dans ce sens-là que je dis qu'elle est prospective, elle peut peut-être amener à rediscuter aussi avec les hypothèses de Yves. Et donc, c'est un peu prendre tout le courant qui essaye de prendre distance aujourd'hui avec l'éthique de la discussion, avec la théorie habermasienne, avec l'éthique principialiste de type Rawlsien, et essayer de comprendre ce qu'il y a de commun dans ce mouvement qui tente de dépasser l'éthique de la discussion dans les théories de la gouvernance. Et l'hypothèse que je voudrais faire, c'est qu'il faut quand même être vigilant. Même si notre pensée est soumise à suivre les évolutions épistémologiques en cours, il y a peut-être un point fort dans les théories qui insistent aujourd'hui sur la capacité des acteurs, qui est en même temps constitutif d'un nouveau point aveugle. Donc autant on voit ce qu'il est important de dépasser dans une théorie de la discussion qui peut-être n'éclairait pas suffisamment un point dont on a encore discuté tout à l'heure, c'est-à-dire à quelles conditions les acteurs peuvent s'engager de manière représentative à l'intérieur d'échanges qui supposément devraient déboucher sur de nouvelles normativités, autant on voit cette impasse et qui peut se traduire notamment dans les questions de mobilisation de la société civile, et que la réflexion en termes d'apprentissage social voudrait amener à corriger précisément cette impasse et à renforcer les capacités des acteurs pour que précisément ils puissent jouer un jeu dans les nouvelles enceintes internationales, dans les forums, au même moment où on insiste donc énormément sur cette question de capacitation des acteurs, il y a peut-être un nouveau point aveugle qui se met en place. Alors, je voudrais d'abord cerner ce point, ce que j'appelle le point aveugle, dans les deux théories qui sont plus contemporaines, qui sont les théories de Robert Brandon et de Michael Bratman, et ensuite vous montrer qu'on peut effectivement, dans un deuxième temps, vérifier l'existence de ce point aveugle si on en vient à des théories contemporaines de la gouvernance, comme celle de l'expérimentalisme démocratique, qui est la plus en vogue, pas de manière générale, mais en tout cas à la New School à New York, dans la ligne de Joshua Cohen et de Charles Sebel. Pour ensuite dire, mais si je mets en évidence ce point aveugle, dans un troisième temps, quel en est l'enjeu? Qu'est-ce que l'on peut tirer d'un tel travail de mise en évidence du point aveugle? Et enfin, la question subsidiaire, sans doute la plus complexe, est-ce qu'une fois qu'on a mis en évidence un point aveugle, qu'on s'est rendu compte d'un éventuel danger, est-il possible néanmoins d'avoir une action sur la confiance qui ne continue pas à corroborer les effets simplement de stratégie de contrôle et d'organisation du pouvoir? Donc voilà un peu les quatre étapes de mon raisonnement. Alors la première étape est plus un raisonnement de type épistémologique. C'est un petit peu la spécificité du type de travail que l'on mène dans le centre de recherche où on est, c'est-à-dire en général de partir d'une clarification épistémologique pour ensuite revenir véritablement aux théories actuelles de la gouvernance. Et il me semble qu'on peut avancer comme hypothèse qu'un point commun des différentes théories qui essayent de sortir du procéduralisme habermasien ou de l'éthique de la discussion en général, Apple dans les variantes Onnet, la théorie de la reconnaissance, Rawls et Joshua Cohen, qui est aussi un Rawlsien analytique, comme on appelle ça, ont un point véritablement commun du point de vue de la théorie de l'action, c'est qu'elles mobilisent toutes un inférentialisme. C'est-à-dire qu'elles vont toutes mettre en scène une hypothèse sur le pouvoir-faire des acteurs comme étant la condition nécessaire de leur engagement à l'intérieur d'accords normatifs. C'est un petit peu le point central. Ça, je vais essayer simplement de vous justifier au plan épistémologique avant de passer à une étape plus pratique dans le néo-pragmatisme. Donc, les différentes formes contemporaines de sortie des schémas délibérativistes ont des caractéristiques communes, ce qui pourrait être déterminé comme une survalorisation du pouvoir inférentiel accordé au processus de mise en capacité des acteurs en tant qu'ils sont des processus de coordination de rôle qui ont deux caractéristiques fondamentales, qu'ils sont diachroniques et qu'ils sont relationnels. Ce pouvoir inférentiel est d'autant plus important qu'il s'agit de dépasser des schémas qui auraient mis entre parenthèses les conditions de capacitation des acteurs et leur rôle dans l'appréciation des pratiques qui prétendent garantir la convergence de leurs motifs rationnels. Alors, ça veut dire quoi, en résumé? Tout simplement que chez Habermas, il y avait essentiellement trois grandes caractéristiques d'un échange communicationnel. Et que c'est par rapport à ces trois caractéristiques d'un échange communicationnel performant du point de vue d'un objectif de gouvernance, que aussi bien des auteurs comme Batman que des auteurs comme Brandon vont essayer de faire basculer vers une nouvelle forme de théorie qui va mettre mieux en évidence les capacités d'action des acteurs. Alors ces trois points sur lesquels insiste constamment Habermas, c'est tout d'abord un nous implicite. C'est-à-dire que là, il va parler d'une communauté idéale de communication, où il va encore parler d'un groupe idéal de référence, une communauté d'interlocution. Donc lorsque nous sommes dans une situation de discussion comme être humain, nous mobilisons un arrière-plan qui constitue dans l'idéalisation d'un nous. Nous sommes partie prenante de la discussion dans laquelle nous essayons de faire valoir notre point de vue. Et donc, en fait, nous allons ensuite raconter à d'autres acteurs, sous la forme du nous, ce qui s'est passé à l'intérieur de la discussion que nous avons eue ensemble. Cette condition est fondamentale pour une dynamique de rationalisation des différents points de vue. Sinon, on est devant deux groupes opposés qui ne parviennent pas à construire quelque chose ensemble. Un deuxième élément est encore plus contraignant chez Habermas, c'est qu'il faut, au-delà de ce nous implicite, mettre en place les conditions d'une interchangeabilité des rôles. C'est-à-dire que les différents participants à la discussion vont progresser dans la mesure où ils sont capables de passer du point de vue d'un autre, c'est-à-dire non plus de défendre leur intérêt du point de vue de leur intérêt, mais de défendre leur intérêt du point de vue de l'acteur qui est en face d'eux. Donc de montrer le bien fondé de l'intérêt qui est le mien par rapport à l'intérêt qui est le vôtre, ce qui est la nature même du déplacement argumentatif. Et la troisième condition qui ajoute encore une contrainte supplémentaire, c'est de passer de cette relation de réversibilité à une relation d'universalisation. Laurent Thévenot, Laurent Thévenot appelle ça la montée en puissance des arguments, c'est-à-dire ce qui est le principe d'universalisation de la discussion. Universalisation concrète, pas universalisation abstraite, pas par référence à des principes, mais au plus je vais corriger mon point de vue pour rencontrer l'expression de l'intérêt d'autrui, au plus nous allons dégager progressivement un universalisable dans nos différents points de vue. Ça, ce sont les trois contraintes fondamentales qui permettent de construire, grâce à l'éthique de la discussion, un travail de rencontre des points de vue et de reconstruction, on pourrait dire, d'un intérêt général. Alors, ce qui dérange tout autant Brandon que Michael Bratman, c'est qu'il y a là un présupposé sur la capacité communicationnelle des acteurs qui va être traité uniquement au plan des compétences et des comportements argumentatifs. C'est-à-dire que d'un côté, on va idéaliser les compétences d'interlocution des acteurs et donc essayer de les fixer comme un ensemble de compétences à acquérir ou à respecter. Et de l'autre mécanisme corrélatif, on va analyser le respect du contrat argumentatif en fixant des comportements rationnels dans l'argumentation. Qu'est-ce qu'un argument rationnel versus qu'est-ce qu'un argument irrationnel? Et on va l'exprimer en termes de comportement et non pas en termes de capacité. Donc là, il est tout à fait possible et légitime que des personnes prennent spontanément le leadership dans l'échange argumentatif pour que certains groupes d'intérêts soient mieux préparés à l'emporter, même dans les conditions d'une argumentation rationnelle, par rapport à d'autres groupes. Je vais pousser beaucoup plus loin cette question de la mise en œuvre du procédé argumentatif dans des enceintes internationales, dans la mesure où des acteurs devraient dépasser l'expression locale de leur intérêt pour être en mesure d'en donner une définition non seulement translocale, mais éventuellement aussi multi-actorielle. Donc ils devraient à la fois étendre leur perspective au plan géographique, par exemple, mais aussi au plan de la multiplicité des groupes d'intérêt susceptibles de se positionner par rapport à leur intérêt. Alors, de nouveau, est-ce que là n'est pas présupposé des capacités de modification des aptitudes des acteurs qui n'ont pas été interrogés pour elles-mêmes? On peut demander à une ONG de devenir un évaluateur externe d'un processus de développement. Est-ce que parce qu'on tente une démocratisation des processus d'évaluation, que nécessairement l'ONG va être en mesure de se donner les capacités de jouer ce rôle d'évaluation? Et ça, c'est un problème qu'on va rencontrer notamment dans l'impact assessment au niveau environnemental auquel on faisait allusion tout à l'heure. Ce n'est pas parce que l'on essaye de sortir d'une sorte de schéma d'audit interne et d'auto-évaluation des grandes institutions que des institutions qui seraient subsidiées en étant des institutions non gouvernementales pour réaliser ce travail d'impact assessment, que ce soit Oxfam ou que ce soit le WWF, sont des institutions qui sont préparées à se transformer comme acteurs pour jouer ce nouveau rôle qui pourtant pourrait, d'un autre côté, dans l'idéal absolument, paraître comme un rôle tout à fait essentiel pour une plus grande démocratisation et pour un plus grand contrôle social. Alors c'est ce problème de la mise en capacité des acteurs dans des processus de discussion collective que tentent de cerner tout autant des acteurs comme Brandon et comme Bratman. Alors Bratman, ce qu'il fait, lui, c'est une façon de dire c'est ça, ce qu'il fait, c'est de proposer une règle de reconnaissance qui permettrait aux acteurs de se mettre en capacité de jouer ce rôle en reconstituant leur potentiel comme groupe d'acteurs. Donc il va imaginer trois autres critères qui viennent faire basculer les critères habermasiens et qui sont des critères essentiellement liés à de l'inférence, c'est-à-dire à un engagement qui va avoir des conséquences sur le pouvoir-faire des acteurs. Brandon va parler, lui, d'engagement conséquentiel. La manière dont on s'engage dans un round de négociation, la manière dont on s'engage dans un processus d'évaluation, la manière dont on se prépare à agir dans une interaction argumentée est fondamentale pour déterminer la responsabilité que l'on va pouvoir mettre en jeu, pas la responsabilité que l'on a définie formellement de par les règles de l'éthique de la discussion, mais va déterminer la responsabilité que, comme acteur, on va pouvoir réellement supporter et mettre en jeu dans le processus. Donc on a deux définitions complètement différentes de la responsabilité formalisée attendue d'une convocation des acteurs dans une enceinte internationale, et leur définition en termes de responsable des partenaires publics, responsable du monde privé, responsable des ONG, et la responsabilité qui est réellement soutenable, c'est-à-dire la responsabilité que peut vraiment tenir l'acteur en fonction des moyens dont il dispose. Et tout à l'heure, Yves avait bien rappelé qu'un des problèmes de l'activisme dans le domaine de l'Internet, c'est qu'il n'est certainement pas pour l'instant subsidié comme pourrait l'être certaines formes d'activisme dans le domaine environnemental. Ce n'est qu'un élément matériel par rapport à l'engagement conséquentiel, mais c'est un élément fondamental de ce qui permet effectivement d'avoir une responsabilité tenable à l'intérieur d'un débat. Alors, cette notion de responsabilité tenable, si vous voulez, autant Brandon que Bratman essayent de la construire en faisant basculer les trois contraintes que s'était mis en place, qu'avait mis en place Habermas dans son éthique de la discussion. Alors, je vous les énonce rapidement. Pour Brandon, l'idée, c'est qu'il faut une sorte de règle de reconnaissance des acteurs à l'intérieur d'un processus d'action conjointe. Ce qui va se produire à l'intérieur de la discussion, c'est pas seulement une interaction argumentative réductible au point de vue linguistique, comme c'est le cas chez Habermas. C'est un processus d'action collective. C'est un processus social. Et par rapport à ce processus social, la manière dont on s'y engage pour y agir de façon conjointe avec d'autres acteurs est fondamentale vis-à-vis de la responsabilité qu'on va pouvoir y soutenir. Et Bratman identifie trois règles par rapport à ça. La première règle, c'est la capacité pour le groupe de s'engager. On parle de commitment et de responsive commitment, un engagement qui soit réactif aux objectifs fixés, c'est-à-dire que l'on puisse avoir un pouvoir de modaliser les objectifs que l'on se donne. Ce qui est très différent d'être convoqué pour appliquer la convention ou le protocole de Montréal dans la réunion suivante, etc., etc. Donc là, il y a d'abord la capacité de, pourrait dire, de renégociation, mais dans le sens d'une responsabilité soutenable des objectifs, ce qui va pouvoir permettre de transformer les objectifs comme relatifs à un processus d'action conjointe. De rendre les objectifs, le mot anglais très important, responsifs par rapport aux acteurs, c'est-à-dire que les objectifs soient sensibles par rapport à leur soutenabilité, à leur caractère soutenable pour les acteurs. Donc que les acteurs ne soient pas mis devant des impératifs tels que de toute façon ils ne peuvent pas engager comme groupe leur responsabilité par rapport à la réalisation de ces objectifs. Donc ces objectifs seraient en complet décalage, non sensibles par rapport à la situation effective de pouvoir des acteurs. Deuxième élément que met en évidence Brandon, c'est une égalité des moyens. Donc là, il vient à la question matérielle extrêmement concrète que j'ai touchée à l'instant, c'est-à-dire qu'on ne met pas en débat des acteurs dont les moyens de participer à l'action conjointe sont complètement disproportionnés. Donc il faut une réelle égalité des moyens, c'est-à-dire, il prend carrément, c'est un Américain, donc il ne s'ennuie pas, il dit je pars de New York et je vais à Los Angeles, et on me dit rendez-vous tel jour à telle heure. Il y a une différence entre celui qui prendra le bus et celui qui prendra l'avion. C'est aussi plat que ça, son exemple, et c'est ça qu'il appelle un critère d'égalité des moyens. Et ce qui est très différent, vous imaginez, de la fiction rationnelle de l'interchangeabilité des rôles. Pourtant, il s'agit bien aussi d'interchanger les rôles si on veut poser la question de l'égalité des moyens. Et troisième exigence, c'est une solidarité entre les différents rôles. Donc ça veut dire que les acteurs qui participent à un processus d'action conjointe, si c'est un processus d'action conjointe, doivent en même temps se soucier de la capacité qu'ont les autres acteurs à pouvoir remplir leur rôle. Et donc si à un moment donné, on se dit, mais dans telle délégation, il y a un véritable problème de représentativité. Les gens qui ont fonctionné dans plein d'instances internationales sentent ça très bien. Il y a un problème de représentativité. Nous ne jouons pas le jeu de l'action conjointe si nous ne posons pas ce problème. Ça, c'est une règle fondamentale de Michael Brotman. Parce que, dès lors, nous ne sommes pas solidaires des différents rôles. Ces acteurs sont supposés jouer un rôle. Nous subodorons que le rôle n'est pas joué dans le sens où il devrait l'être. Dès lors, nous sommes en train de rentrer dans un contrat de lutte. Nous sommes en décalage par rapport au processus de la capacitation que sont supposés remplir ces acteurs. C'est ça qui constitue, selon Bratman, une règle de reconnaissance. Et vous voyez, cette règle de reconnaissance, elle est complètement subordonnée à l'idée que il faut mettre les acteurs dans une situation de pouvoir faire en fonction d'une responsabilité soutenable. On trouve en fait un raisonnement qui est assez parallèle, et c'est pour ça que ça m'a intéressé, chez Robert Brandon. La critique de Robert Brandon par rapport à Habermas, elle est d'abord sur un plan plus formel et plus linguistique. C'est-à-dire qu'il reproche d'abord fondamentalement à Habermas le présupposé de la constitution d'un « nous » comme étant ce qui est d'emblée donné comme porte d'entrée d'une construction argumentative. Pour Brandon, de nouveau, tout est affaire à l'intérieur même du processus de la construction. Sinon, on laisse dans l'opacité les conditions de possibilité de l'argumentation. On présuppose que les acteurs arrivent tout préparés et sont immédiatement opérationnels. Pour faire en sorte que les acteurs ne soient pas simplement opérationnels, il y a une formule terrible, il dit qu'il faut passer d'un engagement doxastique à un engagement pratique. C'est-à-dire qu'il faut sortir des théories de l'engagement, il ne cite que parfois Habermas, mais c'est une des personnes qu'il vise en priorité. Donc il faut sortir d'un engagement qui porte uniquement sur des conditions cognitives, de capacité à formuler de l'opinion, pour d'abord en venir au pouvoir-faire, c'est-à-dire à ce qui va mettre les personnes en capacité de nouveau de trois choses, c'est-à-dire de ce qu'il appelle globalement, c'est l'américain, ça sonne vite facile, c'est bien, « making true against taking true ». Donc il faut mettre les gens en capacité de faire valoir leur point de vue, donc en capacité de pouvoir faire valoir leur point de vue. Et pour pouvoir faire valoir ce point de vue, bien, on pourrait dire qu'il faut de nouveau agir sur trois plans qu'on peut remettre en parallèle avec les trois plans de Bratman. Il faut avoir un engagement soutenable. Donc on revient à une autre idée de commitment. Au lieu de commitment responsif, c'est sustainable commitment. Il faut une autorité. Il faut construire une autorité. Donc il faut avoir agi, non plus sur la légitimité comme résultat du processus de l'échange argumentatif, mais la légitimité comme préalable à la capacité d'un échange argumentatif où l'on va faire « making true ». Et donc la question de la représentativité, de nouveau, comme chez Bratman, est une question préalable à l'efficacité d'un pouvoir-faire dans l'échange. Et le troisième élément qui est parallèle au mécanisme de solidarité chez Bratman, c'est l'attention à répercuter l'attente des acteurs. Donc il va ajouter une contrainte vraiment radicale par rapport à la représentativité qui n'est pas simplement d'être capable de se soutenir les uns les autres comme chez Brandon, mais d'être le véritable moteur de la répercussion des attentes des personnes que l'on représente. Donc il faut que, nommément, les attentes puissent être retraçables. On va retrouver des choses qui étaient déjà très proches là-dedans, chez les notions de dialogisme pur chez Calon, dans le « Agir dans un monde incertain ». Donc il faut que les attentes soient réellement traçables. C'est une garantie de la représentativité. Alors, vous voyez, une fois qu'on insiste sur ces trois critères, vous remarquez combien on se déplace par rapport aux trois exigences normatives de Habermas. Le « nous » n'est en aucun cas prédonné, il est à faire. Il sera fait non pas au nom d'un principe de vérité, mais à la condition d'être dans la situation de pouvoir faire la vérité. Pour pouvoir faire la vérité, pour pouvoir négocier les objectifs pour avoir une responsabilité soutenable. Pour pouvoir faire la vérité, il faut être en mesure de représenter de manière égale, avec des moyens égaux, des acteurs dont on peut en même temps retracer les attentes dans les prises de position que l'on tient. Alors ça, c'est un élément, il y a évidemment beaucoup plus à dire encore là-dessus sur Bratman's Structures of Agency et Articulating Reasons, le livre de Brandon, mais il me semble qu'ils ont une véritable communauté d'inspiration dans la manière dont ils suggèrent de sortir des théories procédurales classiques de la gouvernance. Et cette communauté d'inspiration, elle est dans une critique fondamentale de l'absence d'inférentialisme chez Habermas, Rawls et tout, donc d'absence de prise en compte des conditions fondamentales du pouvoir de faire. Donc précisément, c'est, on peut vérifier, je pense, cette hypothèse que je viens d'essayer de vous résumer en s'intéressant très, très brièvement à certaines théories néo-institutionnalistes de l'action collective. On va retrouver effectivement de nouveau un privilège accordé à l'inférentialisme, c'est-à-dire un privilège accordé prioritairement aux mises en condition du pouvoir faire des acteurs. Et un point commun de l'ensemble de ces théories, c'est d'essayer de structurer les trois conditions dont je viens de parler chez Bratman et chez Brandon, de structurer ces trois conditions autour d'un concept central qui est le « the process of social learning », donc le process de l'apprentissage social, le processus de l'apprentissage social. Et donc ces trois conditions que l'on a construites au plan épistémologique, dans les théories néo-institutionnalistes de l'action, elles vont être reconstruites sur un processus social d'action conjointe qui est la manière d'apprendre ensemble de nouveaux rôles dans les conditions de l'échange social. Donc on va provoquer un processus, vous connaissez ces mots-là, on les a même utilisés dans le management aussi, on va utiliser un processus de résolution de problèmes, et grâce à ce processus de résolution de problèmes, on va mettre les acteurs en condition d'un apprentissage de la prise de décision. Ça, c'est le cadre qu'on va retrouver certainement un petit peu plus dense au plan épistémologique dans les théories de Sebel et de Cohen, dans ce qu'on appelle l'expérimentalisme démocratique. Mais le fond du processus se trouve là. Il y a des caractéristiques de nouveau tout à fait particulières, dont je disais, elles ont une plus grande densité que les théories du management, que j'aime bien par ailleurs, mais parce qu'elles s'inspirent essentiellement de John Dewey, bon, qui n'est quand même pas un professeur d'école de management, et dont la finalité première est quand même de construire la démocratie sur la base de la production de l'intelligence collective, le public et ses problèmes. Alors, cet enjeu fondamental, c'est de dire qu'on va parvenir à rendre efficients des espaces de discussion sociale en donnant du pouvoir faire aux acteurs, comme le veulent Brandon et Bratman, si on est en mesure d'organiser l'interaction sociale sous les modalités d'apprentissage qui conduisent à une production d'intelligence collective. Donc c'est vraiment cela l'horizon et l'enjeu. Et de nouveau, on va pouvoir décoder trois conditions qui vont à nouveau, comme les trois conditions de Bratman, comme les trois conditions de Brandon, tenter de faire basculer le modèle procéduraliste vers les conditions du pouvoir-faire. Alors, première condition fondamentale, c'est une condition qui est d'ordre qu'on pourra appeler cognitif, et qui va de nouveau modifier fondamentalement le rapport épistémologique à un nous idéal. La condition cognitive sur laquelle s'accorde ce modèle-là, c'est une condition qu'on appelle de déplacement de l'attention. On a certains auteurs comme Donald Schön ont appelé ça de generative métaphore, la métaphore générative. Il faut pouvoir déplacer son attention d'une manière de faire où l'on était uniquement dans des gestes autoconfirmatifs par rapport aux routines que l'on avait déjà acquises dans les pratiques. La première condition, c'est se mettre dans une situation où l'on va fondamentalement déplacer, déstabiliser une habitude, une manière de décider, une manière d'interpréter le bien fondé de ce qu'on fait, pour se laisser interpeller par d'autres manières d'agir. Et cela est basé au plan cognitif sur le passage de l'attention à une autre forme d'attention, qui est une attention créatrice, c'est-à-dire qu'il y a des choses que l'on va pouvoir prendre d'une situation et les appliquer dans des situations non normales d'application. Alors ça, c'est le premier cadre cognitif. Ils appellent ça le déplacement conceptuel. Deuxième exigence. Donc on est dans une séquence où l'apprentissage doit être lié à un déplacement de l'attention. Deuxième séquence, l'apprentissage se réalise à travers un processus d'enquête conjointe. Alors l'idée d'enquête conjointe, Share Inquiry, par exemple. Hein. L'idée d'enquête conjointe, elle vient contrecarrer l'idée formelle de l'interchangeabilité des rôles, de nouveau. Puisque dans une enquête conjointe, on va essayer d'explorer, à travers le regard d'autres acteurs, un problème commun. Et donc essayer de comprendre comment le problème commun peut se décliner de manière complètement différente selon qu'on le voit comme directeur d'école ou selon qu'on le voit comme parent voulant respecter à la maison les préceptes d'un islam, pas nécessairement fondamentaliste, mais qui continue la tradition du pays d'origine. Alors, travailler dans un processus d'enquête conjointe, c'est d'abord travailler à la construction d'une histoire commune qui déplace l'attention des histoires sélectives. Moi, j'ai raison comme directeur d'école, et moi, j'ai raison en tant que musulman conséquent d'attendre ce type de comportement de ma fille dans le cadre du cours de gym. D'accord ? Alors, l'attention, elle permet de reconstruire dans une enquête non plus la répétition des histoires sélectives. Quel que soit le nouvel événement qui arrive, j'ai toujours raison et je le réinterprète. C'est toujours l'autre qui a tort, c'est toujours l'autre qui est à côté de sa plaque. Il n'a pas compris. Et on construit, grâce à la réinterprétation dans l'enquête conjointe, la possibilité d'une nouvelle histoire commune. Donc là, il y a un basculement. Un basculement qui n'est pas basé sur le principe fondamental de l'interchangeabilité des rôles. Puisque là, ici, il y a différentes, on appelle ça parfois différentes heuristiques de la situation qui entrent en contradiction les unes avec les autres. Et le troisième terme de leur processus, c'est la visée de construction d'une, on en a beaucoup parlé tout à l'heure, hein, vous savez que les inflations langagières sont toujours significatives de quelque chose, multi-stakeholders, multiple stakeholders, etc. Et très bien, mais de nouveau, l'autodéfinition du stakeholder, de celui qui est un acteur concerné par le processus, ne descend pas du ciel. On peut très bien être un acteur concerné sans avoir la moindre conscience, mais on peut très bien être aussi un acteur concerné majoritaire qui, lui, en a totalement conscience et n'est pas intéressé par la présence d'autres stakeholders. Mais comment se constitue la position du stakeholder, qu'il en ait conscience ou pas, de toute manière? La condition de constitution d'une identité interactive de stakeholder dépend fondamentalement de l'enquête conjointe. Dépend fondamentalement d'une capacité à faire histoire commune ensemble en déplaçant son attention sur d'autres formes d'attente des différents acteurs concernés qui sont présents dans l'environnement. Le moyen terme de ça, on pourrait dire, tant qu'on n'a pas construit par l'enquête conjointe cette nouvelle heuristique d'un problème ou cette nouvelle représentation sociale d'un problème qui additionne d'une certaine manière ou qui parvient à donner une cohérence à différents points de vue, il n'y a pas de problème public. Donc, si vous voulez, un petit peu claque par rapport à tout à l'heure, l'Internet n'est pas un problème public. Ce n'est pas un problème public et personne, aucune autorité conventionnelle n'a le pouvoir de décider qu'Internet est un problème public. Par contre, il est possible de construire une représentation sociale de l'Internet qui fera qu'à un moment donné, on décidera collectivement qu'Internet, il n'y aura même pas de décision collective formelle, il sera devenu évident qu'Internet est un problème public. Ça, il me semble, c'est un acquis fondamental des néo-institutionnalistes. Donc, on peut forumiser les problèmes au niveau international ou au niveau national dans la construction de visions d'experts, de visions conventionnelles de l'intérêt public, d'intérêt privé. Mais ce n'est pas encore la construction d'une combinaison par enquête conjointe de l'attention à d'autres problèmes qui viennent se lier et se greffer. Il y avait un embryon de ça, mais ça a été tellement vite basculé, sur l'idée de fracture numérique. À un moment donné, des acteurs pouvaient s'exprimer qui ne trouvaient pas la façon de s'exprimer sur la question de l'Internet avant. Mais c'était quelque chose qui a été très vite redépassé par d'autres types de problématiques. Mais donc, il y a ce moment où dans la gouvernance, un apprentissage, parce que dès lors qu'on va commencer à essayer effectivement de faire cette exploration commune, il y a un apprentissage pour l'ensemble des acteurs. Puisque c'est assez évident que pour un acteur local, la gouvernance de l'Internet, dont il entendra par ailleurs des tas d'experts leur dire que c'est ingouvernable en plus. Donc la gouvernance de l'Internet n'est pas fatalement une évidence immédiate. Et il entendra des gens en termes de police de l'Internet qui dira qu'en termes de sanctions, on est extrêmement démunis. Alors comment voulez-vous qu'un acteur, utilisateur non averti, se fasse tout d'un coup une représentation de ce que pourrait être une gouvernance? Et pourtant, la capacité à construire à travers différents acteurs, mis en capacité selon les conditions de Brandon et de Bratman, etc., un problème public commun de ce qui se joue à l'intérieur de cette sphère particulière est fondamental pour pouvoir effectivement chercher des processus adéquats de résolution de problèmes et des processus collectifs de décision démocratique. Donc le grand risque aussi, hein, on va vite sauter progressivement au point 3, le grand risque aussi, c'est dans l'impasse d'une construction par apprentissage, il peut résulter l'incapacité de prendre des décisions démocratiques. C'est-à-dire des décisions qui sont réellement informées de l'ensemble des questions qui sont susceptibles de se poser vis-à-vis de l'objet sur lequel on est en train de prendre une décision. Donc, vous voyez, loin de moi, l'idée de minimiser l'importance que peuvent avoir en termes de construction du pouvoir-faire aussi bien les théories épistémologiques qui critiquent le délibérativisme d'Habermas et de Rawls, que les théories de la gouvernance néo-institutionnaliste et plus spécifiquement néo-pragmatiste, qui insistent fondamentalement sur la nécessité de processus inférentiels où des acteurs deviennent capables de tenir leur engagement, dès lors de participer à la construction d'une représentation de nouvelles formes d'intérêt public, à propos desquelles on peut alors construire de nouveaux mécanismes de décision démocratique. Cependant, il y a une telle insistance sur le pouvoir-faire qu'il me semble néanmoins qu'un arrière-plan ou un point aveugle s'est dessiné en même temps qu'on insiste sur le pouvoir-faire. Je dirais que cette insistance, cette force de proposition liée au pouvoir-faire est tellement puissante qu'on minimise beaucoup les conditions qui permettront aux acteurs de participer à titre égal, on va utiliser le mot égal pour le moment, qui permettront aux acteurs de participer à titre égal à ce pouvoir-faire. Et tout est mis en place comme si, mis dans un cadre nouveau d'interaction, doté d'une règle d'apprentissage, on va avoir la garantie que les acteurs vont réellement produire de la coopération structurée. Comme si cela n'était pas en même temps dépendant d'un regard rétrospectif sur l'origine des acteurs, sur certaines difficultés qu'ils auraient déjà rencontrées par le passé à négocier sur d'autres objets. Et donc sur la manière dont les acteurs ont acquis des expériences positives et négatives dans l'ordre de ce que je vais appeler, alors ici je propose d'appeler à titre provisoire, ce que je vais appeler le faire-pouvoir. Puisque dans le fond, tous ces acteurs sont mobilisés avec des identités constituées. Au contraire, on va beaucoup miser sur ces identités constituées, quitte à les déplacer, quitte à les mettre en forme, en structure, dans des apprentissages. On va compter sur ces identités constituées pour les faire progresser à l'intérieur d'un schéma de gouvernance sans avoir fondamentalement interrogé les conditions du faire-pouvoir pour ces acteurs. Ces conditions du faire-pouvoir pour ces acteurs, elles sont aussi marquées par un certain nombre de limites, par un certain nombre d'expériences négatives, par un certain nombre de blocages qui ont rendu aussi à certaines époques, face à d'autres enjeux, qui ont rendu impossible une prise de décision collective. Et donc, moi j'avais travaillé un article qui m'a beaucoup fasciné là-dessus. C'est un article de David Laws et je fais ça parce que toi t'en as déjà entendu parler, excuse-moi, de David Laws et Martin Ryan, où c'est dans Deliberative Policy Analysis, et il essaie de comprendre comment aux États-Unis au début des années 90, dans le projet du mandat, du premier mandat Clinton, on est arrivé dans le secteur environnemental à dépasser l'impasse de l'activisme environnementaliste. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils identifient ce qui, à un moment donné, a été la force de négociation de l'activisme environnementaliste qui a produit de nouvelles formes de régulation, hein, comme les RECNEC, hein, les Regulatory Negotiations. Donc, il y avait une performance. Et puis est arrivée cette stratégie à la fois rhétorique et juridique, parce qu'elle avait un bien fondé, du fameux NIMBY syndrome. Et donc, où ils voient que ces acteurs sont discrédités, parce que finalement, ils sont dans l'incapacité de répondre à une forme de stratégie qui est la stratégie de l'intérêt général. Et ce que analyse Laos et Rhein, c'est le rôle qu'ont joué des groupes d'activistes religieux, complètement inattendus, des droits civiques et religieux, pour débloquer le problème environnementaliste. Donc à la fois, ils vont essayer de montrer comment le fait que des acteurs mobilisés sur des raisons tout à fait différentes que celles de l'activisme environnementaliste ont simplement identifié qu'il y avait quand même une nette propension à installer des sites de retraitement de déchets toxiques dans des banlieues pauvres avec des minorités latino avec des connotations religieuses. Donc il y avait une certaine propension à poser ce... Et là, ils ont commencé à financer une enquête indépendante liée à l'Église unie. Et cette enquête indépendante, elle a permis de contrecarrer la stratégie de l'intérêt général menée par l'administration Bush, et qui consistait cette fois à démontrer que des minorités payaient de manière disproportionnée le principe appliqué de la répartition selon l'intérêt général en termes de coûts-bénéfices. C'est évidemment le terrain moins cher, le processus de négociation est plus simple, et un des éléments cognitifs extraordinaires qui mettent en évidence, c'est que cette enquête donc est productrice d'un savoir en même temps, parce que le déplacement de l'attention, ce n'est pas une formule rhétorique. Quand on faisait des expertises dans les protocoles d'expertise, ces protocoles d'expertise en termes de santé publique étaient fondamentalement influencés par l'imaginaire de la classe moyenne. Donc de quoi a peur la classe moyenne quand elle va avoir une exposition à un site de retraitement de déchets toxiques? D'attraper un cancer, tiens. Bien. Et donc, les protocoles disaient, ben voilà, on a établi tel niveau de risque, c'est acceptable, les gens sont d'accord, ils vont avoir tel et tel avantage, on installe le site. Or, en fait, quand on a déplacé l'attention vers le type de problème vécu au plan de la santé publique par ces populations, qui ne sont pas les problèmes standards de la classe moyenne américaine qui ne voulait pas voir ces sites près de chez elle, on a découvert des problèmes pulmonaires et on a découvert des problèmes d'allergie dermatologique. Et le fait de l'exposition à des substances toxiques à faible niveau mais sur une durée prolongée poser un grave problème de santé publique par rapport à ces populations-là en particulier. Donc des populations qui étaient déjà des populations fragiles au niveau de la santé publique payaient plus le coût d'implantation des sites de retraitement et en plus étaient menacées en termes de santé publique par une décision qui avait été mal prise. Et c'est ce qui a permis à Clinton de faire sa première loi 4 de réforme de l'environnement. Alors là, il y a tout un processus d'apprentissage qui fondamentalement est interprété par ces auteurs-là sur le mode du pouvoir faire. Regardez ce qu'ils ont pu faire. Et moi, ce qui me frappe le plus là-dedans, c'est qu'ils ne donnent quasiment pas de place à l'analyse de la levée du blocage par un contournement vers une autre identité d'action. Parce que ce qui va devenir fondamental dans l'argument là, qui est rhétorique, mais qui est rhétorique politique et qui est intéressant, c'est que les représentants de l'Église unie au Congrès, ils vont sortir un slogan qui va faire malheur, ils vont parler de racisme environnemental. Mais quand on voit la littérature interne par rapport au 14e amendement, ce qui est intéressant, c'est que ce qu'ils remarquent, c'est qu'en plus d'avoir utilisé le racisme environnemental, ils se disent entre eux que c'est le premier grand combat civique qu'ils ont créé depuis la lutte contre la ségrégation raciale. Donc ils se rendent compte aussi qu'ils ont déplacé l'attention vers un concept politique d'intérêt commun par rapport à l'environnement qui permet pour la première fois de traduire de manière performante en termes de justice sociale la question environnementale. Et donc, ils ont réussi à lever le blocage de l'activisme environnemental. Ce qui serait intéressant, ce serait donc de pouvoir travailler sur le faire pouvoir qui était là, ce dont ont bénéficié les environnementalistes. Ce n'est pas simplement d'un processus de pouvoir faire, de construction de ce qu'ils appellent new meanings, new heuristics, new stakeholder identities. Ce n'est pas uniquement ça. Ce dont ils ont bénéficié, c'est d'un faire pouvoir dans ces groupes d'activistes des droits civiques et religieux qui ont déplacé la question environnementale sur le terrain de la justice sociale. Et donc qui ont fait basculer l'approche encore particulariste qui était liée à une militance activiste écologique liée aux conséquences pour des riverains sur une question de justice sociale qui remettait complètement le problème en termes de santé publique et en termes d'égalité entre des communautés. Alors, ce déplacement-là, pour moi, on ne peut pas l'obtenir simplement de manière inférentialiste dans les termes d'une règle qui serait prédonnée dans l'engagement des acteurs. Il y a une question beaucoup plus radicale, qui est une question liée au faire pouvoir dans les groupes. Et on peut déplacer l'analyse de l'autre côté. Si les gens des droits civiques et religieux se sont rendus compte qu'il y a eu là une opportunité extraordinaire, c'est parce qu'ils avaient eux aussi un blocage. C'est parce qu'il y avait une sclérose, il y avait un rôle attendu de la lutte, qui était devenu une lutte conventionnelle, où l'on peut faire quasiment une carte politique de où se situe le Black Caucus par rapport au Parti démocrate et par rapport aux différents enjeux. Donc ils étaient bloqués dans une situation de rôle social conventionnel. L'activisme écologique et le problème d'une communauté, traçabilité, hein, le problème d'une communauté spécifique, leur a permis, eux aussi, de sortir d'un blocage en termes de faire pouvoir. Donc il y a deux groupes qui ont trouvé un nouveau type de faire pouvoir et qui constitue une nouvelle identité qui, là, va être productive de normativité. Parce que dans cette culture que certains d'entre vous certainement connaissent très bien, l'administration a anticipé la nouvelle loi en revoyant complètement le mapping d'installation de tous les nouveaux sites qui étaient programmés. Parce qu'ils se rendaient compte que ça allait leur coûter un peu. Donc, à ce moment-là, il y a une efficace politique et juridique qui se met en œuvre, pas simplement parce qu'un mécanisme d'expérimentation sociale lié au pouvoir faire a été mis en place. Il y a tous les éléments qu'on a décrits. Il y a l'enquête conjointe. Et le type d'enquête qui déplace les savoirs n'aurait jamais été possible s'il avait s'agi simplement d'une enquête publique. Donc il y a un enjeu, il y a un enjeu de moyens. L'Église unie, ceux qui la connaissent, moi je l'ai rencontrée en Amérique latine, c'est une Église à la fois extrêmement puissante, mais en même temps idéologiquement bien articulée. Elle a mis de l'argent pour payer une commission d'enquête indépendante. Parce qu'il s'agissait de groupes communautaires liés à des églises, les enquêteurs ont fait réellement une enquête conjointe, c'est-à-dire aussi par audition qualitative. Vous voyez, méthodologiquement, il y a une série de choses qui ont été mises en place. Donc là, ils ont raison de noter que le processus d'enquête n'a pas échoué parce qu'il y avait un réel souci du pouvoir faire, parce qu'on n'a pas présupposé le « nous » entre les environnementalistes et les droits civiques et religieux. Et parce qu'on est véritablement passé d'une histoire sélective à une nouvelle histoire commune. Leurs critères, effectivement, fonctionnent. Mais au-delà de leurs critères, il y a fondamentalement deux groupes bloqués. Et ces deux groupes en situation de blocage se rencontrent et vont coopérer dans le sens d'éviter la répétition de leur blocage. Et ça, c'est un élément fondamental qu'à mon sens, pour le moment, dans les nouvelles formes de théorie qui sont à notre disposition, qui essayent d'orienter notre réflexion, eh bien, on ne met pas suffisamment en lumière. C'est-à-dire une articulation entre le pouvoir faire et le faire pouvoir. Le risque est d'autant plus grand que dans ces théories, la place donnée au faire pouvoir va souvent se réduire à un impact de type quasi-cognitif. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'on pourrait réinterpréter en mettant de côté l'analyse des blocages que je fais? dans l'exemple qu'on a vu, mais c'est simplement dit, mais il va avoir un reframing. On va recadrer les conditions d'action collective. Vous voyez, là, on reste complètement dans la dynamique du pouvoir-faire. J'ai participé dans un engagement soutenable à tel processus d'enquête conjointe qui a créé une histoire commune, et ça m'a amené à recadrer les conditions de mon action. Et donc, là, vous avez une manière d'interpréter justice, racisme environnemental et justice environnementale. C'est le processus de reframing. Si on subordonne complètement le faire pouvoir à un pur processus de recadrage des identités comme condition d'action, en tant que conséquence, donc ce que j'appelle l'engagement conséquentiel chez Brandon, eh bien, on risque de rater complètement les conditions positives liées au faire pouvoir. Or, ces conditions positives, c'est ce qui constitue la capacité que peuvent se donner des acteurs à diagnostiquer des blocages et à ne pas les répéter. Et donc, actuellement, on est devant des propositions qui, pour moi, sont extrêmement riches en termes de dépassement d'un certain formalisme procédural, pour le dire comme ça, qui insistent sur les conditions inférentielles de l'engagement, mais qui risquent de nous contraindre dans un nouveau type de point aveugle, qui sont les conditions liées à la reconstruction d'identité dans le processus. Donc, c'est-à-dire aux conditions du faire pouvoir qui me permet de pouvoir faire. C'est lors que j'essaye de reconstruire. Et pour moi, trois pistes, mais là, c'est exclusivement, je les livre comme ça, c'est juste des pistes de recherche pour le moment. Les trois pistes de recherche que j'essaye de mettre en évidence par rapport à ce lien d'un faire-pouvoir pour un pouvoir-faire, c'est trois éléments qui seraient liés et qui donc viendraient se mettre de nouveau comme une trilogie en opposition aux différentes trilogies que j'ai identifiées, Habermas, Brandon, Bratman, le néo-pragmatisme. Qu'est-ce qui constituerait une manière de ne pas manquer le point aveugle du faire-pouvoir? Pour moi, ça se déclinerait selon trois ordres de questions de construction de l'intervention sociale avec des acteurs. C'est d'abord l'ordre de la motivation intrinsèque. Pour moi, c'est un élément fondamental dans un regard sur le pouvoir-faire qui considère souvent la motivation des acteurs d'abord du point de vue extrinsèque avant d'envisager le point de vue intrinsèque de la motivation. Qu'il s'agit d'une motivation intrinsèque dans le sens du plaisir ou de la signification que l'on donne à son engagement, imaginez les groupes des droits civiques et religieux ou un activiste militant de la cause écologique, mais il y a une motivation intrinsèque qui est impayable. Et de l'autre côté, aussi cette motivation intrinsèque dans la capacité nouvelle de faire citoyenneté. Donc, c'est-à-dire aussi de lier l'apprentissage social à la participation comme un élément fondamental de la motivation sociale. Imaginez ce parent d'élève exclu ou qui ne trouve pas sa place dans notre société, qui devient capable de dire quelque chose avec le directeur sur le processus d'organisation de l'enseignement, qui devient partie prenante de la construction d'une solution. La motivation intrinsèque qu'il peut y avoir en termes d'apprentissage et de reconnaissance est un élément fondamental d'une construction d'une intervention. Deuxième élément, la relation exogroupe. Je n'ai malheureusement pas le temps de développer beaucoup, mais pour moi, un des grands éléments de faiblesse du procéduralisme de l'éthique de la discussion, c'est de subsumer toutes les relations sociales sous un modèle de relation intragroupe. C'est-à-dire, quand on discute, nous formons un « nous », mais donc ça veut dire que puisque nous formons un « nous », nous discutons à l'intérieur d'une communauté d'interlocution. Les mots des philosophes, d'ailleurs, sur ce plan-là sont extrêmement lourd, heureusement il peut en avoir des usages plus subtils, mais dans le point de vue philosophique, ça peut devenir très très lourd et extrêmement contraignant. Or, l'apprentissage exogroupe répond à des conditions de performativité complètement différentes de celles de l'apprentissage intragroupe. Et là, de nouveau, quand on agit, la capacité à réellement tirer parti des positions exogroupes et non pas d'abord d'espérer d'une règle de coopération que nous fassions nous pour pouvoir faire, est un élément fondamental. C'est parce que les activistes des droits civiques et religieux et les activistes écologiques ont joué comme exogroupe qu'ils ont pu effectivement apprendre quelqu'un l'un de l'autre. Et s'ils n'avaient pas joué dans un processus d'apprentissage exogroupe et qu'ils avaient essayé de créer une espèce de nouvelle plateforme vague de l'environnementalisme, ce qu'a à une époque essayé dans la toute fin de la théologie de la libération en Amérique latine, à un moment donné, où elle a essayé de se convertir dans un mouvement de revendication pour la justice économique, comme on a vu aussi en Afrique du Sud, la théologie de la reconstruction. Mais là, il y a effectivement une destruction de la possibilité de l'apprentissage exogroupe, qui est fondamentale dans la construction d'une identité. Parce que c'est là qu'on va toucher au blocage. Et troisième élément, la réciprocité qui est en jeu dans le processus. La réciprocité, non plus précisément, et fondamentalement pas comme dans le sens d'un échange, et donc pas la réciprocité interprétée trop rapidement comme le donner, recevoir, rendre, mais la réciprocité comme ce qui provoque autrui à reprendre l'initiative de l'échange. Donc qui va déplacer la capacité d'initiative d'un groupe à l'autre. La condition d'une relation de réciprocité étant là véritablement dans l'asymétrie. C'est-à-dire il y a une réciprocité à partir du moment où l'asymétrie devient possible entre les groupes. C'est-à-dire au moment où l'autre prend l'initiative, j'accepte son initiative. Et donc la construction d'une relation de réciprocité et non pas d'une relation égalitariste basée sur la fiction de l'échange. Les différentes préférences supposément égalitaires. Si je veux pouvoir entendre dans mon exemple les problèmes de santé publique liés aux communautés concernées, je ne peux pas me baser sur une fiction égalitariste. Je dois nécessairement déplacer mon point de vue dans la construction du faire pouvoir sur la question d'une asymétrie. Et donc faire en sorte que cette communauté puisse être dans la situation de véritablement prendre l'initiative. Voilà, ces trois pistes de recherche pour essayer.
Cet exposé, je pense qu'il clôture merveilleusement bien ce cycle de conférences. Alors, si vous avez encore le courage, parce qu'il est quand même 7h, et puis on a encore un cocktail après, si vous avez le courage de quelques questions ou de quelques réflexions, en tout cas, personnellement, je trouve qu'on franchit une étape formidable hein, par rapport au séminaire de l'an dernier où on était resté fortement lié à une éthique procédurale, etc. Donc, dans ce concept de faire pouvoir et pouvoir faire, je trouve que les trois conditions du faire pouvoir, on trouve vraiment des choses qui sont tout à fait intéressantes. Mais,
essayer de faire un déplacement plus ambitieux, si tu veux, c'est à la fois d'accepter la sortie du modèle procédural en accentuant les conditions de capacitation des acteurs, donc en disant au-delà du procéduralisme, oui, au néopragmatisme, mais à un néopragmatisme lesté d'une critique assez radicale de son rapport, case vide, boîte noire, comme vous voulez, point aveugle, de son rapport aux identités. Et donc en ouvrant un champ d'interrogation, donc en disant ce rapport à la récurrence des blocages et à la capacité par l'intervention sociale de mettre en évidence le risque d'une reconstruction de blocage, y compris dans un nouveau cadre participatif, là il y a quelque chose en plus à travailler, mais qui n'enlève rien à l'intérêt du processus lié au pouvoir faire, qui me semble être une issue possible au délibérativisme.
Bon, félicitations, c'était passionnant. Maintenant, qui disait jusqu'à la fin, vous êtes quand même encore d'accord avec la chose, la grande institution. Pour ça, l'institution ne sera pas le départ, et pour ça, l'institution se trouve dans l'intimité. Et deux, tout simplement, vous semblez raffiner un peu les conditions passant à l'institution. Puis à un moment donné, là, il faut faire la réforme. Un, bien éclatant, parce que vous dites, bon, et après, à un moment donné, il faut qu'il y ait quelque chose qui puisse sortir de l'institution pour pouvoir régénérer l'institution. Donc, évidemment, c'est des exemples qui m'ont paraissé intéressants parce que comment est-ce qu'ils vont dire, comment est-ce qu'ils vont afficher à la fois une position distincte et en même temps faire son temps de non-remise en cause de l'institution. C'est intéressant. Non, sinon, il n'y a pas en cause de l'institution. Et le deuxième point, quelque chose qui me paraît intéressant, c'est qu'en fait, cette institution, elle ne pourra progresser que dans la mesure où elle n'est pas un problème. Il devient un problème à partir du moment où l'institution décide de prendre le parti. Donc, comment est-ce que vous voyez, vous, la capacité pour l'institution à un moment donné, qui va instruire cette forme d'imagination, qui va être un vaste problème au sein de l'institution?
Enfin, la même question pour le cas, en fait, que tu nous as pris sur le racisme environnementaliste. Là. Donc, je me suis un peu posé la question, la même question, finalement, d'où vient cette force de certains acteurs à reconfigurer le problème pour en faire un problème commun. Et puis, d'où sortent les alliances, enfin, est-ce qu'on ne peut pas les relire tout ça de manière très stratégique, peut-être un peu cynique, en disant que c'est un jeu de pouvoir normal dans les négociations. On a tous connu ça, hein, des recadrages problématiques. On en connaît au gouvernement pour l'instant, hein, on sait que ça, du recadrage pour en faire un problème commun, et donc avec des jeux d'alliance, des jeux de stratégie, etc. Donc dans le faire pouvoir, est-ce que ce faire pouvoir n'est pas extrêmement convergent? Et alors, d'où vient cet argent qu'on a pu mettre sur la table à un certain moment par rapport à cet égalitarisme des acteurs dont on est présent au premier chef? Donc moi, j'ai toutes ces questions, en fait. Moi, donc,
Et là, effectivement, ce qui peut apparaître comme, c'est peut-être aussi ça la question de Véronique, comme un raffinement de la méthode ou du cadre habermasien, c'est quand même un peu plus que ça dans la mesure où il y a une méthode de gouvernance qui est sous-jacente à ça. Et la méthode de gouvernance, elle est fondamentalement expérimentaliste. Ça, c'est pas du tout habermasien. Et donc là, la première chose, donc il y a prendre le risque d'un expérimentalisme comme méthode de gouvernance. Donc ça, c'est un peu le critère. Et là, on n'est encore que dans le néopragmatisme. Et en disant que si on prend le risque de l'expérimentalisme comme méthode de gouvernance, alors il y a une tâche particulière qui n'est pas de laisser au hasard des acteurs et du système les réassortiments stratégiques, mais précisément de jouer sur le cadre qui va rendre possible l'expérimentalisme, c'est-à-dire de reprendre ces acteurs-là qui se sont combinés, parce que ce qui est en jeu, c'est la garantie par le fait pouvoir de pouvoir faire. Tandis que quand on est dans le pur jeu stratégique, ben, ils auraient très bien pu se planter. Alors je crois que la reprise...
Non, vas-y. Non, moi je pense pas. Non, moi je pense pas. Je trouve que c'est très séduisant, mais chaque fois la question que je me pose, c'est qu'on part aussi du présupposé que ce recadrage de commun, ce consensus est possible. Mais parfois, il n'est pas possible le fait que, je vous disais, voilà, l'exemple que vous prenez avec le père, il est toujours dans la citoyenneté, il va se sentir super. Pas du tout. On peut parfois être tout à fait dans une relation. Plus du tout de consensus, mais de dissensus. Et
mais c'est parce que là vous êtes tout le temps en train de me remettre dans le cadre d'Habermas, donc là, vous êtes appliqué en décalage.
Non, dans la théorie.
Non, mais ça, c'est encore pire. Mais non, ici, donc dans le cadre expérimentaliste, c'est complètement contradictoire de dire qu'un expérimentaliste présuppose le consensus et présuppose la réussite, puisque finalement, tout processus est fondamentalement un processus d'essai et erreur-correction. Donc pour l'expérimentaliste, le dissensus, l'impossibilité de la réussite, tout ça fait fondamentalement partie du processus.
Mais on n'arrive pas toujours au consensus. Non. À part d'erreur, on n'arrive pas au consensus.
Pourquoi? Pourquoi ? Pourquoi ? On va arriver à d'autres types de solutions, c'est tout. Il n'y aura pas de vide particulier. Donc, par exemple, là, on aurait pu tout simplement implanter. Tu vois, on aurait pu implanter. Tu vois, il n'y a pas non plus de règles, de solutions optimales. Dès que tu es dans un idéalisme, quel qu'il soit, l'idéalisme de la rationalité, de la théorie des jeux qui présuppose un modèle de rationalité parfaite, ou bien qu'il s'agisse d'une rationalité compréhensive à la Habermas, il y a une règle d'optimum social. Pas dans l'expérimentalisme. Donc l'expérimentalisme, c'est rendre possible des apprentissages du point de vue des acteurs. Même quand on échoue, ce que l'expérimentalisme permet de voir, c'est ce que néanmoins les acteurs ont appris. Alors là, on est très loin des modèles stratégiques conjoncturels, puisque qu'est-ce qui est intéressant, c'est que si on prend la responsabilité d'un processus de négociation, même s'il échoue, à la limite, on s'en fout, mais c'est de gérer ce qui était gagné en termes de responsabilité. Et donc c'est là fondamentalement que nos processus de négociation sont toujours largement pris en défaut, puisque si on déplace vers une école la responsabilité de régler des problèmes qui dépassent la capacité de gestion de l'école, ça veut dire que ce qui aura été appris par les acteurs dans cette situation ne pourra jamais être effectivement repris à l'intérieur d'un apprentissage et sanctionné comme un apprentissage. Donc il n'y a aucun travail sur le faire pouvoir. Tu vois, c'est dans ce sens-là. Donc c'est encore embryonnaire. Hein. Et voyez bien la difficulté du jeu que j'ai fait, puisque moi je ne serais pas d'accord dans l'article que j'ai utilisé à dire que ce qui est le plus intéressant, c'est que ce soit devenu une loi du gouvernement Clinton. Là j'ai dit à la limite que, vous voyez, ils surévaluent la signification de leur méthode. Et ce qui est intéressant dans cet article-là aussi, c'est qu'ils sont extrêmement peu intéressés à voir tout ce qui était transfert d'apprentissage, du savoir-faire stratégique conventionnel auquel tu es sensible, en disant, ben, c'est évident, si ces gens-là ont des représentants au Congrès par rapport à ce qu'on sait de la représentation politique des activistes écologiques aux États-Unis, il est clair que les autres avaient un levier beaucoup plus fort. Mais ça, ils ne sont pas sensibles à ça. Mais moi, ce qui m'intéresserait, c'est de pouvoir le lire en termes de transfert de savoir, en termes d'apprentissage et en termes éventuels de transformation des identités, indépendamment de la réussite.
Mais dans le processus expérimentaliste, il y a bien aussi le problème de la norme scientifique qui est issue aussi d'une construction à terme. C'est-à-dire que ce qu'on présuppose de différence avec le processus de Habermas, c'est que la normativité chez Habermas est présupposée, alors que chez l'expérimentaliste, elle est issue du processus lui-même à un deuxième niveau.
Tout à fait. Du fameux déplacement de l'attention, de la possibilité d'une histoire commune. Ce qui est fondamental, c'est pour eux, quand on sort de l'histoire qui répète le taking through, et où on devient enfin possible de passer à une position où on cherche à reconstruire la position de vérité. Mais pour moi, je dis encore, même par rapport à ça, qui est encore une version extrêmement optimiste, puisque même quand on est parvenu à la position coopérative, soumise à la faillibilité d'un making through, rien n'empêche que se reconstituent de manière aussi forte des blocages qui avaient été construits antérieurement. Donc, un exemple sur lequel j'essaye de travailler, mais c'est pas simple, hein, sur ce type de sujet-là, c'est de voir pourquoi est-ce que dans la dérégulation du secteur public de l'électricité, on n'est pas intéressé à un rôle plus opérationnel comme celui de la société civile, ce serait les consommateurs, les associations de consommateurs. Donc moi j'ai pris plutôt l'acteur syndical en disant, est-ce qu'on a une telle représentation de l'acteur syndical qu'on estime que fatalement dans un processus comme celui auquel on assiste aujourd'hui, il n'a absolument pas de place, et ça pose au niveau syndical un très gros blocage. C'est la question d'être capable d'agir pour défendre les intérêts des travailleurs d'un secteur, tout en ayant une perspective citoyenne qui soit capable de prendre en compte l'intérêt des usagers. Ce qui n'est absolument pas la tradition syndicale industrielle, puisque si une centrale nucléaire, ça produit de l'emploi, eh bien, tant pis pour les riverains, les riverains de centrales nucléaires, c'est l'argent. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a une modification de cette position-là, évidemment peut en partie être interprété par la faiblesse dans le secteur et donc par une recherche stratégique. Mais quelle serait une gouvernance intelligente, hein, qui prendrait en compte la possibilité, par ce type de mécanisme, de mettre en évidence d'autres liens possibles entre des acteurs de la société civile qui leur permettraient de refaire l'identité. Il est quasiment lui-même hors jeu aussi. Mais ici, moi, la perspective telle que c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai thématisé ça en termes d'intervention sociale. Donc, c'est que l'idée qu'à la fois, il peut y avoir une action du point de vue de l'engagement à un expérimentalisme démocratique, donc de dire que si effectivement on prend par exemple comme acquis la volonté de deux choses, c'est l'obligation de service public et l'exigence de service universel, comme étant la traduction juridique de ce qui va permettre de garantir des garde-fous démocratiques à la libéralisation du secteur. Et qu'on cherche à appliquer ça dans l'optique d'un expérimentalisme démocratique. Alors, de l'autre côté, se pose la question de la capacité que pourraient avoir des acteurs à jouer sur ces paramètres dans un sens expérimentaliste. Donc, c'est être conséquent avec l'expérimentalisme démocratique jusqu'au bout, ce qui est différent, évidemment, de mettre une décision en ligne jusqu'à telle date et de dire qu'on a considéré la société civile, et de se dire en contrepartie, il peut y avoir un travail de réflexivité chez les acteurs qui peut être suscité donc, comme une demande sociale. Par exemple, les acteurs, concrètement dans ce secteur-là, l'acteur syndical jouait un rôle dans la régulation publique du secteur. Le modèle belge était même assez original par rapport même au modèle français. Il y avait un comité de régulation, hein, la CREG, et ce truc a été complètement laminé par Electrabel. Ça pose un pouvoir de positionnement des services publics. Si l'électricité a augmenté, c'est parce que la CREC ne peut plus jouer son rôle. Donc il y a un problème de positionnement des services publics. Il y a des acteurs partenaires potentiels par rapport à ça. Et l'Europe n'arrête pas de condamner la Belgique par rapport à un système qui ne fonctionne pas à cause d'un monopole public qui est celui d'Electrabel. Vous voyez, il y a plein de lumières qui sont allumées, mais l'idée qu'on peut aller jusqu'au bout dans l'expérimentalisme démocratique, mais que ça demande un type d'intervention sociale avec les acteurs d'une nature particulière. Donc si on ne travaille pas avec les acteurs à ce moment-là, donc si un pôle intervenant ne suscite pas un travail avec les acteurs, à ce moment-là, donc c'est un petit peu comme on travaille aussi sur ce plan-là, disant il y aurait moyen de travailler de cette manière-là les processus d'impact assessment, en disant si on demande à des groupes de la société civile d'être producteurs d'impact assessment, mais fatalement ça veut dire qu'on applique une règle expérimentaliste et on doit s'engager à faire en sorte que l'acteur travaille différemment son fait pouvoir.
Dans la construction. À un moment la capacité des acteurs de s'auto-organiser pour éviter les détournements de positions ou d'agressions. Il y a souvent, même à l'intérieur des groupes, des gâteaux d'opportunités. Et donc, ça, c'est dans un processus dynamique, dans la journée, je crois que c'est très important.
Tu as raison.
En permanence, disons, il y a ces tentatives. L'autre, effectivement, ce que je viens de l'aborder, c'est la relation au niveau étatique ou la construction d'une représentation sociale, c'est souvent comme avec d'autres représentations qui agissent. Je crois que l'important, c'est de ne pas minorer, moi j'appelle ça la passion, mais je veux dire la capacité de détourner des acteurs de la.
Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et là, c'est un peu l'aspect qui t'intéressait aussi. Il me semble que c'est quelque chose qui doit être traité au plan de l'apprentissage exogroupe. Il me semble qu'à partir du moment où l'acteur peut être mis en position de redéfinir une position, pas seulement par rapport à la variabilité possible de ses propres intérêts, mais par rapport à la mise en position, on dirait aujourd'hui pour le moment à titre provisoire, à la mise en position de tiers d'un autre groupe, donc par exemple ici les usagers par rapport aux intérêts d'un secteur industriel, pour moi c'est moins le fait qu'il y ait ce tiers-là et pas d'autres, mais qu'il y a en même temps une obligation entre guillemets de tercéisation de l'acteur collectif. Et ça me paraît être un réducteur par rapport à la capture opportuniste.
Je vais peut-être couper parce qu'il y a un cocktail qui attend et puis on peut encore discuter autour d'un bon verre, hein, je pense. Mais simplement, Ben, voilà, parce que je pense que certains ont des impératifs de temps, etc. Donc, je voulais simplement, Marc, te féliciter, te remercier et en tout cas me faire le porte-parole de Yves Poulet qui a trouvé ton exposé passionnant. Je pense qu'on est tous unis dans la même passion en t'écoutant. Donc, c'était vraiment un exposé de clôture absolument extraordinaire par rapport au thème de tout ce séminaire. Donc, merci beaucoup. Je voudrais aussi, en votre nom à tous, remercier les quelques artisans de ce séminaire, donc Benjamin Sick, qui a vraiment tenu l'affaire et le magasin à bout de bras, on dit, l'affaire, en fait, ce séminaire à bout de bras, vraiment en l'accompagnant, en le faisant vivre toute une série de questions, et puis à travers ces textes qui ont fait les conducteurs, donc Véronique Laurent, Nathalie Grandjean, Anne Deveux et Christine Martini, pour toute leur gentillesse dans l'organisation et tout le support qu'elles nous ont apporté. Et puis Philippe Goujon aussi, qui a été un des initiateurs de ce séminaire. Voilà. Je vous invite tous à boire un petit verre et puis je vous donne rendez-vous dans le livre qui ne manquera pas de sortir du séminaire.
Si le vent vous plaît, c'est un ami à moi qui a ouvert une cave ici à Lyon.
Ah bon,
il a de très très bons vins.
Ça, c'est Benjamin.
Oh là 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 là. Ah oui, oui, oui.
Et donc, et qui a ouvert, mais si tu dis,
il a pris des bras. Vous allez voir déjà.
Mais là, c'est magnifique, on va regarder ici.
Cherche, on va
plus au bout d'un mois.
Ah bah oui, ça va être tout là, on va pouvoir déguster.
J'ai vraiment du bien. Vous êtes promis?
J'espère qu'il vous plaira.
Qu'est-ce qui se passe
là? Ça tourne à lui, comme ça je vais voir.
Il fait des dégustations.
J'en ai déjà fait quelques-unes, parce que je peux vous envoyer les mails si ça vous intéresse. Oui, tout à fait. Très bien. C'est bien passé. En confrontation pour la fin, effectivement, c'était une fin haut en couleur. J'ai quand même toujours du mal avec les saisons.
Oui, 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 mais ça, il faut encore.
Parce que.
Voilà, vous avez vu la
c'est votre séminaire, ce mot-là. Vous avez vu la
Je suis désolé.
Adeline, ben justement, on devait voir quand Jean-Marie est décédé. Comment est-ce qu'on procède, disons?
Ça a été pour moi tellement.
Mais oui, parce que je suis toujours connu.